Jack London, La force des forts. Les paraboles ne mentent pas, mais les menteurs s'en servent. Lip King. Le vieux barbant long fit une pause dans son récit, lécha ses doigts pleins de graisse et les essuya sur ses flancs laissés à découvert par le fragment usé de peau d'ours qui constituait son unique vêtement. Accroupis sur leur jarret, l'entouraient trois jeunes gens, ses petits-fils, Courdin, Poil de Carotte et Froussard de Nuit. Ils se ressemblaient beaucoup, chichement vêtus de peau de bête, maigres et mal bâtis, hanches étroites, jambes torses, mais avec de vastes poitrines, des bras musclés, des mains énormes. Le poil leur foisonnait sur le thorax et les épaules, ainsi que sur la partie extérieure des bras et des jambes. De leurs longues chevelures en broussailles, s'échappaient à chaque instant des mèches qui retombaient devant leurs yeux, petits, noirs, étincelants comme ceux d'oiseaux de proie. Leurs orbites étaient rapprochées, leurs pommettes écartées, leurs mâchoires inférieures proéminentes et massives. Sous la voûte étoilée s'étageaient des chaînes de montagnes couvertes de forêts. Très loin, le reflet d'un volcan rougissait le ciel. Derrière eux s'entourait une sombre caverne d'où soufflait un courant d'air intermittent. Devant eux, tout près, flambait un feu. Et à côté gisait la carcasse à demi dévorée d'un ours que surveillaient à distance plusieurs gros chiens hirsutes et pareils à des loups. Chaque homme avait posé près de lui son arc, ses flèches et sa massue. Et à l'orifice de la caverne étaient appuyés plusieurs javelots rudimentaires. « Et voilà comment nous quittâmes la caverne pour l'arbre !» résuma le vieux barbant long. Ils éclatèrent de rire comme de grands enfants à cette évocation d'une histoire mille fois racontée. Barbant long en fit autant, et la cheville d'os de 10 centimètres qui traversait le cartilage du nez se mit en branle, ajoutant à la férocité de sa physionomie. Naturellement, la phrase ci-dessus ne ressemble guère à la série de 100 animaux qui sortirent de sa bouche et qui signifiaient la même chose. Oui, tel est mon premier souvenir de la vallée de la mer, reprit Barbant long. Oh, nous étions une bande de sots qui ignorions le secret de la force, car chaque amie vivait seule et se débrouillait pour elle-même. On en comptait 30, mais elle ne s'entraidait pas, ne se faisait pas de visite et se craignait mutuellement. Au sommet de notre arbre, nous construisîmes une hutte de roseaux sur une plateforme où nous empilâmes de grosses pierres destinées aux crânes de visiteurs éventuels. En outre, nous avions nos javelots et nos arcs, et ne passions jamais sous les arbres d'autres familles. Mon frère s'aventura une fois sous l'arbre du vieux Bououf. Il eut la tête cassée, tout simplement. Oh, ce vieux Bououf était très fort, capable, paraît-il, d'arracher la tête d'un homme. Oh, je n'ai jamais entendu dire qu'il l'ait fait, parce que personne ne lui en fournit occasion. Mon père moins que tout autre. Un jour que celui-ci se trouvait sur la grève, Bououf se mit à la poursuite de ma mère. Elle ne pouvait courir vite, ayant reçu la veille un coup de griffe d'ours dans la montagne où elle ramassait des baies. Bououf l'attrapa et l'emporta dans son arbre. Mon père n'osa jamais la reprendre. Il avait peur et le vieux Bououf lui faisait des grimaces. Mais mon père ne s'en souciait guère. Bras de Fer, un des meilleurs pêcheurs, était également un homme fort. Un jour qu'il grimpait sur les rochers pour dénicher des œufs de mouette, il tomba de la falaise. À la suite de cet accident, il perdit toutes ses forces. Tout ça continuellement et ses épaules se rapprochèrent. Alors mon père prit la femme de bras de fer, et quand le mari vint tousser sous notre arbre, mon père éclata de rire et lui jeta des pierres. Oui, bien, telles étaient nos façons d'alors. Nous ne savions pas devenir forts en unissant nos forces. Et un frère aurait-il pu enlever la femme de son frère? Demanda Courtenay. Oui, à la condition d'aller lui-même habiter un autre arbre. Nous faisons plus de choses pareilles, observa Froussard de Nuit. Parce que j'ai enseigné de meilleures façons à vos pères. Barbanlon allongea sa patte velue vers le rôti d'ours et saisit une poignée de graisse qu'il suça d'un air absorbé. Puis, s'essuyant de nouveau les mains sur ses flancs nus, il continua. Bon, ce que je vous raconte se passait voilà longtemps, alors que nous n'avions pas encore amélioré notre façon de vivre. Vous deviez être rudement sot pour en être encore là, remarqua Courdin, et Poil de Carotte l'approuva d'un grognement. Nous l'étions, mais nous ne devînmes plus encore, comme vous allez le voir. Néanmoins, nous fûmes des progrès, et voici comment. Nous autres, mangeurs de poissons, n'avions pas encore appris à mettre nos forces en commun pour que chacun devienne plus fort. Mais les mangeurs de viande qui habitaient la grande vallée de l'autre côté de la montagne se tenaient coude à coude, chassaient ensemble, pêchaient de conserve et s'unissaient pour combattre. Un jour, ils envahirent notre vallée. Chacune de nos familles se retira dans sa caverne ou sur son arbre. Les mangeurs de viande n'étaient que 10, mais ils attaquaient de concert, tandis que nous luttions chacun pour notre propre famille. Et Barbanlon compta longtemps et laborieusement sur ses doigts. Nous étions 60 hommes, conclut-il. Nous étions très forts, mais nous n'en savions rien. Nous regardâmes donc les 10 mangeurs de viande attaquer l'arbre de Bououf. Oh, il se défendit vaillamment, mais n'avait aucune chance. Nous regardions, et quand plusieurs des mangeurs de viande grimpèrent à l'assaut, Bououf dut se montrer pour leur jeter des pierres sur la tête. Et les autres n'attendaient que cela pour l'accabler d'une volée de flèches. Telle fut la fin de Bououf. Ensuite, les mangeurs de viande assiégèrent dans sa caverne le borgne et sa famille. Ils mirent un feu à l'entrée et l'enfumèrent, comme nous l'avons fait aujourd'hui pour tuer cet ours. Après quoi, ils s'en prirent à 6 doigts dans son arbre, et pendant qu'ils le massacraient avec son fils adulte, le reste de notre bande s'enfuit. Ils capturèrent quelques-unes de nos femmes, tuèrent 2 vieux qui ne pouvaient courir vite et plusieurs enfants, puis entraînèrent les prisonnières dans la grande vallée. À la suite de ce désastre, ceux qui restaient d'entre nous se réunirent piteusement, et, sans doute à cause de notre frayeur et du besoin que nous éprouvions de nous solidariser, nous discutâmes l'affaire. Ce fut notre premier conseil sérieux, et il aboutit à la formation de notre première tribu. Nous venions de recevoir une leçon. Chaque individu de cette dizaine de mangeurs de viande possédait la force de 10, car les 10 avaient combattu comme un seul homme et additionné leurs forces, tandis que nos 30 familles, dont 60 hommes, ne possédaient que la force d'un individu, chacun se battant pour son propre compte. Ce fut une grande discussion, mais elle était difficile, car nous ne disposions pas alors, comme aujourd'hui, des mots adéquats pour discuter. Quelques-uns d'entre nous, dont le scarabée, devions inventer ces mots longtemps après. Et malgré tout, nous tombâmes d'accord pour réunir toutes nos forces et lutter comme un seul homme la prochaine fois que les mangeurs de viande franchiraient la crête pour venir voler nos femmes. et telle fut l'origine de la tribu. Nous postâmes deux hommes sur la crête, l'un de jour, l'autre de nuit, pour surveiller les mouvements des mangeurs de viande. Ces deux-là représentaient les yeux de la tribu. En outre, 10 hommes armés de leurs arcs, flèches et javelots devaient se relayer, toujours prêts au combat. Auparavant, quand un homme allait quérir du poisson, des coquillages ou des œufs de mouette, il emportait des armes et passait la moitié de son temps sur le qui-vive. Et désormais, les pourvoyeurs sortirent sans armes et employèrent tout leur temps en quête de victoire. De même, quand les femmes allaient dans la montagne chercher des racines ou des baies, 5 hommes armés les accompagnaient. Et sans relâche, jour et nuit, les yeux de la tribu veillaient sur la crête. Cependant, des difficultés surgirent au sujet des femmes, comme toujours. Les hommes sans femmes désiraient celles d'autrui, et de temps à autre, l'un d'eux avait la tête fracassée ou le corps traversé par un javelot. Tandis qu'une des sentinelles se trouvait de garde sur la crête, un autre homme lui enlevait sa femme, et le veilleur descendait se battre. Puis l'autre veilleur, redoutant un sort pareil, descendait également. Des querelles du même genre éclataient entre les 10 hommes toujours en armes, si bien qu'ils se battaient 5 contre 5, et que certains d'entre eux s'enfuyaient vers la côte, poursuivis par les autres. En fin de compte, la tribu demeurait sans protection et aveugle. Loin de posséder la force de 60, nous n'avions plus de force du tout. Réunis en grand conseil, nous établîmes nos premières lois. Oh, je n'étais guère qu'un bambin à l'époque, mais je m'en souviens comme si cela datait d'hier. Pour être fort, disait-on, nous ne devions pas nous battre entre nous. Dorénavant, tout homme qui en tuerait un autre serait tué par la tribu. D'après une autre loi, quiconque volerait la femme du voisin serait également mis à mort. Car si le possesseur d'un excédent de force l'employait contre ses frères, ceux-ci vivraient dans la crainte, la tribu se désagrégerait et reviendrions aussi faibles que quand les mangeurs de viande étaient venus nous envahir et tuer Bouffouf. Phalange Dur était un homme fort, très fort, n'obéissant à aucune loi. Oh, il ne connaissait que sa propre force et s'en prévalut pour ravir la femme de 3 coquilles. Celui-ci essaya de se battre, mais l'autre lui écrabouilla la cervelle d'un coup de massue. Phalange Dur avait oublié notre résolution d'unir toute notre énergie pour maintenir la loi. Nous le tuâmes au pied de son arbre et pendîmes son cadavre à une branche pour démontrer que la loi était plus forte que n'importe quel homme, car tous ensemble, nous étions la loi, et aucun homme ne pouvait être au-dessus d'elle. Oh, suivirent d'autres ennuis, car sachez, Courcedin, Poil de Carotte et Froussard de Nuit, qu'il n'est pas simple de faire fonctionner une tribu. Cela causait beaucoup de problèmes de rassembler les hommes en conseil à tout propos, même pour régler des questions de détail. Nous tenions conseil le matin, à midi, le soir, voire en pleine nuit, et nous ne trouvions plus le temps de chercher la pitance, car il restait toujours quelques points à régler, quand il s'agissait par exemple de nommer de nouveaux veilleurs au poste de la montagne, ou de fixer la ration des hommes armés et qui ne pouvaient se nourrir eux-mêmes. Le besoin se faisait sentir d'un homme choisi pour toutes ces besognes, d'un chef qui représenterait la voix du conseil et lui rendrait compte de ses propres actes. Et nous élûmes à cet emploi un homme fort et très habile, nommé Fif-Fif, parce que dans ses colères, il émettait un bruit analogue à la menace d'un chat sauvage. Les 10 gardes de la tribu reçurent l'ordre de construire un mur de pierre pour barrer le défilé menant à la vallée. Femmes et adolescents aidèrent à le consolider ainsi que d'autres hommes. Après quoi, toutes les familles sortirent des cavernes ou descendirent des arbres et bâtirent des huttes de roseaux à l'abri du mur. Ces huttes étaient plus grandes et plus confortables que les habitations souterraines ou aériennes, et tout le monde vécut plus à l'aise parce que les hommes avaient réuni leurs forces et formé une tribu. Grâce aux murs, aux gardes et aux sentinelles, il restait plus de temps aux autres pour chasser, pêcher et ramasser des racines ou des fruits sauvages. La nourriture devint plus abondante et meilleure, et personne ne souffrait plus de la faim. Alors Trois Pattes, ainsi nommé de ce qu'il s'était cassé les jambes dans son enfance et marchait avec un bâton, recueillit des graines de blé sauvage et les sema près de sa hutte. Il essaya aussi de planter divers tubercules trouvés dans les vallées. Attiré par la sécurité de la vallée de la mer, due à la muraille, aux gardes et aux veilleurs, ainsi que par la possibilité de se procurer des vivres en abondance sans avoir à se battre, de nombreuses familles affluèrent des vallées, de la côte et de la montagne où elles vivaient plutôt en bêtes sauvages que comme des êtres humains. Et il ne fallut pas longtemps pour que la population devint très dense. Mais avant cela, la terre, jusqu'alors libre et n'appartenant à personne, fut partagée entre les occupants. Trois Pattes avait donné l'exemple de ce morcellement en semant son blé. Cependant, la plupart d'entre nous se souciaient peu du sol et regardaient comme une sottise la délimitation des terrains au moyen de petits murs de pierre. Nous trouvions des victoires en abondance. Que voulions-nous sauter de plus? Je me souviens que mon père et moi aidâmes Trois Pattes à construire ces petits murs et qu'il nous donna du blé en retour. Ainsi, un petit nombre de gens accaparèrent le terrain et Trois Pattes en prit la plus grosse part. D'autres possesseurs de l'eau les donnèrent aux premiers établis en échange de blé, de racines, de peaux d'ours et de poissons que les fermiers recevaient de pêcheurs contre leurs grains. Et nous ne tardons guère à constater la disparition de tout le terrain. Vers la même époque, Fif-Fif mourut et Dent de Chien, son fils, fut élu chef. Il avait d'ailleurs demandé à le devenir parce que son père l'avait été avant lui. De surcroît, il le considérait comme un plus grand chef que son père, et il fut un excellent chef au début et travailla dur, de sorte que le conseil eut de moins en moins de besogne. Alors une nouvelle voix s'éleva dans la vallée de la mer, celle de Lièvre Tordu. Nous faisions guère attention à lui, jusqu'au moment où il commença à de converser avec les esprits des morts. Et plus tard, nous l'appelâmes Gros Bedon, parce que mangeant beaucoup et ne travaillant guère, il devenait rond et gras. Un jour, Gros Bedon nous déclara qu'il détenait les secrets des morts et qu'il était le porte-parole de Dieu. Il se lia d'amitié avec Dent de Chien, qui nous ordonna de construire pour lui une hutte de roseaux. Ce dernier lui dit tabou tout autour et y enferma Dieu. Dent de Chien prit un ascendant toujours croissant sur le conseil, et quand celui-ci grogna et menaça d'élire un nouveau chef, Gros Bedon parla avec la voix de Dieu pour ordonner que l'on n'en fasse rien. Trois Pattes et ceux qui possédaient la terre étaient également du côté de Dent de Chien. De plus, les propriétaires fonciers donnèrent secrètement de la terre et quantité de peaux d'ours et de paniers de blé à l'homme le plus fort du conseil, Lion de mer. Aussi Lion de mer déclara-t-il que la voix de Gros Benoît était bien celle de Dieu et devait être écoutée. Et au bout de peu de temps, Lion de mer fut proclamé porte-parole de Dents de Chien et prit l'habitude de parler à la place de celui-ci. Il y eut aussi Petite Panse, un abeau si mince de taille qu'il paraissait n'avoir jamais mangé à sa faim. Dans l'embouchure de la rivière, où le banc de sable amortit la force des vagues, il construisit un grand piège à poissons. Personne n'avait jamais vu ni imaginé chose pareille. Il y travailla pendant plusieurs semaines avec son fils et sa femme, tandis que nous autres nous nous moquions de la peine qu'il prenait. Mais le piège achevé, il attrapa en un jour plus de poissons que toute la tribu n'en pouvait prendre en une semaine entière. Et ce fut une occasion de grande réjouissance. Il n'existait qu'un autre endroit de la rivière où l'on pût construire un piège à poissons. Et quand mon père entreprit avec moi et une douzaine d'autres la construction d'un vaste piège, les gardes sortirent de la grande hutte de roseaux que nous avions bâtie pour Dents de Chien et nous asticotèrent les côtes avec leurs javelots, sous prétexte que Petite Panse devait installer lui-même un piège à cet endroit sur l'ordre de Lion de mer, porte-parole de Dents de Chien. Cette façon de faire souleva de nombreuses protestations et mon père convoqua un conseil. Mais comme il se levait pour prendre la parole, le Lion de mer lui perça la gorge d'un javelot et il mourut sur le coup. Dents de Chien, Petite Panse, Trois Pattes et tous les autres détenteurs de terrain manifestèrent leur approbation et Gros Benoît proclama que telle était la volonté de Dieu. Après quoi, les gens appréhendèrent de se lever pour ouvrir la bouche dans le conseil, et ce fut la fin de cette institution. Un autre individu nommé Groin de Porc inaugura l'élevage des chèvres dont il avait entendu parler chez les mangeurs de viande. Il ne tarda pas à posséder quantité de troupeaux. D'autres hommes qui, ne détenant ni terre ni piège à poissons, seraient morts de faim autrement, s'estimèrent heureux de travailler pour Groin de Porc. Ils soignaient ses chèvres, les défendaient contre les chiens sauvages et les tigres et les conduisaient au pâturage dans la montagne. En retour, Groin de Porc leur distribuait de la viande et des peaux de chèvre qu'ils échangeaient parfois pour du blé et des tubercules. Ce fut à cette époque qu'apparut la monnaie. Lion de mer fut le premier à y songer, et il en parla à Dents de Chien et Gros Benoît. Ces trois hommes, voyez-vous, recevaient une part de toutes choses dans la vallée de la mer. Un couffin de blé sur trois leur revenait, un poisson sur trois, une chèvre sur trois. En échange, ils nourrissaient les gardes et veilleurs et gardaient le reste pour eux. Parfois, quand la pêche était abondante, ils ne savaient que faire de leur part. Aussi, Lion de mer embaucha-t-il des femmes pour fabriquer de la monnaie en coquillages, des piécettes rondes et bien polies et percées d'un trou, qu'on enfilait et dont chaque chapelet représentait une certaine valeur. Chacun de ces colliers équivalait à 30 ou 40 poissons. Mais aux femmes qui confectionnaient un de ces chapelets par jour, il allouait simplement 2 poissons. Ce poisson provenait des parts de Dents de Chien, Gros Benoît et Lion de mer, qui le pouvaient consommer entièrement. Ainsi, toute la monnaie leur appartenait. Puis ils déclarèrent à Trois Pattes et aux autres propriétaires de terrain qu'il fallait désormais leur payer en monnaie leur part de blé et de tubercule. Ils réclamèrent de la monnaie à Petite Panse à la place de leur part de poisson, et en exigèrent de groins de porc à la place de leur part de chèvre et de fromage. Ainsi, l'homme qui ne possédait ou travaillait pour celui qui avait quelque chose était payé en monnaie. Avec ce moyen d'échange, il achetait du blé, du poisson, de la viande et du fromage. Trois pâtes et autres possesseurs de diverses choses payaient leur part de monnaie à dents de chien, lions de mer et gros bedons. Ces derniers payaient en monnaie les gardes et veilleurs qui achetaient leur nourriture avec de la monnaie. Celle-ci étant bon marché, et dents de chien recruta un grand nombre de nouveaux gardes. D'autre part, les piécettes étant faciles à faire, beaucoup d'hommes se mirent à en fabriquer eux-mêmes avec des coquillages. Mais les gardes les tuèrent à coups de javelot et de flèches, les accusant de nuire à la tribu. C'était un crime de la démolir, car alors que les mangeurs de viande franchiraient de nouveau la crête, ils viendraient massacrer tout le monde. Gros Bedon était la voix de Dieu, mais il ordonne un prêtre à un certain Côte-Brisé, qui devint la voix de Gros Bedon et parla pour lui la plupart du temps, et tous deux prirent d'autres hommes pour les servir. De même, Petite Panse, Trois Pattes et Groin de Porc entretinrent des serviteurs vautrés au soleil et devant leur hutte de roseaux, toujours prêts à faire leurs commissions et transmettre leurs ordres. Un nombre d'hommes de plus en plus grand fut ainsi enlevé au travail, de sorte que ceux qui restaient durent travailler plus que jamais. Les hommes n'avaient pour seule ambition que de travailler le moins possible, et donc de trouver des moyens de faire trimer les autres pour eux. Un nommé Yeux Bigle découvrit un excellent moyen. Il réussit à extraire du grain la première liqueur de feu. Désormais, il se la coula douce, car dans un conciliabule secret avec Dents de Chien et Gros Bedon, il fut convenu qu'il garderait le monopole de cette fabrication. Mais Yeux Bigle ne travailla pas lui-même. Des hommes produisaient la liqueur pour lui, et il les rétribuait en monnaie. Puis il vendait la liqueur pour de la monnaie, et tout le monde en achetait. Et il donna de nombreux chapelets de monnaie à Dents de Chien, Lion de Mer et tous les autres. Gros Bedon et Côte-Brisé défendirent la cause de Dents de Chien quand il prit une deuxième femme, puis une troisième. Ils déclarèrent que Dents de Chien différait des autres hommes, et se rangeait tout de suite après le dieu que Gros Bedon gardait dans son sanctuaire de roseaux. Dents de Chien affirma la même chose de son côté et demanda de quel droit on protesterait sur le nombre de femmes qu'il lui plaisait de prendre. Il se fit construire une grande pirogue et enleva encore au travail certains hommes qui restaient allongés au soleil, sauf quand Dents de Chien se promenait en bateau et qu'il pagayait pour lui. Il nomma chef de tous les gardes un certain Face de Tigre, qui devint son bras droit. Et quand un homme lui déplaisait, il le faisait tuer par lui. Face de Tigre, à son tour, prit pour bras droit un autre individu pour commander en son nom et tuer à sa place. Mais le plus étrange est qu'à mesure que le temps s'écoulait, nous autres travaillions de plus en plus dur et avions de moins en moins à manger. Mais cependant, objecta Froussard de Nuit, qu'étaient devenus les grains, les tubercules et les pièges à poissons? Le travail humain ne pouvait-il plus produire de nourriture? Que si, affirma Barbanlon. Trois hommes avec le piège parvenaient à prendre plus de poissons que toute la tribu avant sa construction. Mais ne vous ai-je pas dit que nous étions des sots? Plus nous produisions de nourriture, moins nous avions à manger. Mais n'était-il pas évident que les nombreux hommes qui ne faisaient rien mangeaient tout? Demanda Poil de Carotte. Barbanlon hocha tristement la tête. Les bolosses de dents de chien étaient gavées de viande, et ses serviteurs allongés paresseusement au soleil s'engraissaient, cependant que les petits enfants s'endormaient en pleurant de faim. L'espard, l'estomac aiguillonné par ce récit de farine, mine, contredin, déchira mon morceau de viande d'ours, la fit griller au bout d'un bâton sur les charbons ardents, et le dévora en faisant claquer ses lèvres, tandis que Barbe en long continuait. Lorsque nous grommelions, Grommenon se levait, et, avec la voix de Dieu, déclarait que le Très-Haut avait élu des hommes sages pour posséder la terre, les chèvres, les pièges à poissons et la cliqueur de feu, et que, sans ces hommes sages, nous serions tous des animaux, comme au temps où nous vivions dans les arbres. Alors surgit un homme qui devint le chanteur du roi. On l'appela le scarabée parce qu'il était petit, laid de figure et de corps, et ne réussissait pas à faire œuvre de ses 10 doigts. Il raffolait des eaux à moelle, des poissons de choire, du lait tiède des chèvres, du premier blé mûr et de la place la plus confortable près du feu. Devenir chanteur du roi était son moyen de s'engraisser à ne rien faire. Comme le peuple murmurait de plus en plus et que certains commençaient à lancer des pierres sur la hutte en roseau du roi, le scarabée composa une chanson pour célébrer le bonheur d'être un mangeur de poissons. Il disait dans sa chanson que les mangeurs de poissons étaient les élus de Dieu et les meilleurs hommes créés par lui. Quant aux mangeurs de viande, il les traitait de porcs et de corbeaux et recommandait comme une belle et noble action pour les mangeurs de poissons de combattre et de mourir pour accomplir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire tuer les mangeurs de viande. Les paroles de cet hymne nous enflammèrent et nous demandâmes à être menés en guerre contre nos voisins. Oubliant notre faim et nos sujets de mécontentement, nous fûmes heureux de franchir la crête sous la conduite de Face de Tigre et de massacrer un grand nombre de mangeurs de viande. Mais les choses n'en marchèrent pas mieux dans la vallée de la mer. La seule façon d'obtenir de la nourriture était de travailler pour 3 pattes, petites panses ou groins de porc, car il n'existait plus aucun terrain où un homme soit semé du blé pour lui-même. Et souvent, il y avait plus de travailleurs que ne pouvaient en occuper 3 pattes les autres. Ces hommes en surnombre, ainsi que leurs femmes, enfants et vieilles mamans, se trouvaient réduits à la famine. Face de Tigre leur ayant dit qu'ils pouvaient à leur gré entrer dans la garde, beaucoup d'entre eux s'enrôlèrent et n'accomplirent désormais d'autres besognes que de piquer de leurs javelots les travailleurs qui murmuraient de voir mourir tant de mouches inutiles. Et chaque fois que nous protestions, le scarabée composait de nouvelles chansons. Il disait que 3 pattes, groins de porc et leurs acolytes étaient des hommes forts et que telle était la raison de leur richesse. Il ajoutait que nous devions nous estimer heureux d'avoir avec nous des hommes forts, sans lesquels nous périrons dans notre impuissance sous les coups des mangeurs de viande et qu'il fallait en conséquence se réjouir de laisser à ce tel personnage tout ce sur quoi il pouvait mettre la main. Et Grommenon, Grain de Porc, Face de Tigre et les autres applaudissaient à la chanson. « Très bien, dit Loncro, alors moi aussi je viendrai un homme fort. » S'étant procuré du grain, il se mit à fabriquer de la liqueur de feu et à la vendre pour des chapelets de monnaie. Comme Yeux Bigle se plaignait de la concurrence, Loncro déclara qu'il était lui-même un homme fort et que si Yeux Bigle continuait à causer du scandale, il lui écrabouillerait la cervelle. Yeux Bigle, intimidé, alla converser avec 3 pattes et groins de porc et tous 3 s'entretinrent avec tant de chiens. Celui-ci en parla à Lion de Mer et Lion de Mer dépêcha un message à Face de Tigre. Face de Tigre envoya ses gardes, qui brûlèrent la hutte de Long Crow avec la liqueur de feu de sa fabrication, et le tuèrent ainsi que toute sa famille. Gros Bedon approuva cet acte, et le scarabée composa un autre hymne à la gloire de ceux qui observaient la loi, célébrant la vallée de la mer et incitant tous ceux qui aimaient ce magnifique pays à partir en guerre contre les mangeurs de viande. Une fois de plus, son chant nous enflamma et nous oubliâmes nos récriminations. Chose inouïe, quand Petite Panse attrapait trop de poissons et devait en vendre beaucoup pour peu d'argent, il rejetait une grande partie dans la mer, de façon à tirer du reste un plus gros bénéfice. Trois pattes, de son côté, laissait de vastes champs en friche dans le dessein de récolter plus d'argent de son blé. Enfin, comme les femmes confectionnaient tant de chapelets de coquillages qu'il en fallait beaucoup pour effectuer le moindre achat, Dent de Chien arrêta la fabrication de la monnaie. Alors les femmes, se trouvant sans travail, prirent la place des hommes. Occupé dans un piège à poissons, je gagnais un chapelet de monnaie tous les 5 jours. Mais quand ma sœur me remplaça, elle ne reçut qu'un chapelet tous les 10 jours. Les femmes, travaillant à meilleur marché, en avaient moins à manger, et Face de Tigre nous conseilla de nous faire garde. Et cela m'était impossible à cause de ma jambe trop courte, et Face de Tigre ne voulut pas de moi. Beaucoup d'autres se trouvaient dans le même cas. Nous étions des hommes démolis, capables au plus de mendier de l'embauche ou de soigner les nourrissons pendant que les femmes trimaient. Poil de Carotte, à son tour, affamé par ce récit, fit griller un morceau de viande d'ours sur les charbons. Mais pourquoi ne vous révoltiez-vous pas tous ensemble pour tuer 3 pattes, groins de porc, Gros Bedon et tous les autres, et trouver de quoi vous mettre sous la dent? Demanda Froussard de Nuit. Mais parce que nous ne comprenions pas, répondit Barbanlon. Il fallait penser à trop de choses, et puis il y avait les gardes qui nous harcelaient de coups de javelot, et Gros Bedon qui parlait de Dieu, et le scarabée qui entonnait de nouvelles chansons. Quand un homme pensait juste et exprimait sa pensée, Face de Tigre et les gardes l'emmenaient et l'attachaient sur les rochers à marée basse pour qu'il fût noyé à marée montante. C'était un phénomène bien étrange, la monnaie. C'était comme les hymnes du scarabée. Cela semblait très bien, mais ne l'était pas, et nous étions lents à le comprendre. Dent de Chien se mit à ramasser les coquillages. Il entassa une énorme pile dans une hutte de roseaux que des gardes surveillaient jour et nuit. Et plus il amoncelait de guerre, de bonnes, plus elle devenait chère, de sorte qu'un homme devait travailler plus longtemps pour en gagner un chapelet. Et puis on parlait toujours de guerre contre les mangeurs de viande, et Dent de Chien et Face de Tigre entassaient dans plusieurs huttes du blé, du poisson, de la viande fumée et du fromage. Et comme les vivres s'amoncelaient là, le peuple n'avait pas suffisamment à manger, mais qu'importait? Chaque fois qu'il commençait à grogner trop fort, le scarabée entonnait une nouvelle chanson. Gros Bedon déclarait que la voix de Dieu nous ordonnait de tuer les mangeurs de viande, et Face de Tigre nous conduisait de l'autre côté de la montagne pour les massacrer ou tomber sous leurs coups. On me jugeait inapte à faire un garde ou à m'engraisser en dormant au soleil, mais en temps de guerre, Face de Tigre était bien heureux de m'emmener. Et quand nous avions ingurgité tous les vivres emmagasinés, nous cessions de nous battre et revenions nous mettre au travail pour en amorceler de nouveau. Et vous étiez donc tous fous, commenta Coutredin. Oh, nous l'étions en vérité, reconnut Barbanlon. Tout cela était bien étrange. Un certain Néfendu prétendait que tout allait de travers. Il admettait que nous devenions forts en additionnant nos forces. Il affirmait qu'au premier temps de la tribu, il était juste que les hommes dont la force constituait un danger pour elle fussent supprimés. Ceux, par exemple, qui cassaient la tête à leurs frères ou leur volaient leurs femmes. Or, maintenant, disait-il, la tribu ne devenait pas plus forte, mais s'affaiblissait parce que des hommes doués d'un autre genre de force lui faisaient du mal. Des hommes qui possédaient la force du terrain, comme trois pattes, la force du piège à poisson, comme petite panse, ou la force de toute la viande, comme groin de porc. Le seul moyen d'en sortir, concluait Néfendu, était d'enlever à ces hommes toute leur force mauvaise, de les mettre tous au travail sans exception et de ne pas permettre de manger à qui ne travaillerait point. Et le scarabée entonna une chanson où il était question d'hommes du genre de Néfendu qui voulaient faire marche arrière et retourner vivre dans les arbres. Néfendu lui objecta qu'il ne voulait pas reculer mais aller de l'avant, que l'on ne deviendrait plus fort qu'en associant nos forces, et que si les mangeurs de poissons et les mangeurs de viande s'unissaient, il n'y aurait plus de guerre, plus besoin de veilleurs ni de gardes. Ainsi, tout le monde aurait se remettre au travail et produire tant de nourriture que 2 heures d'effort ne puissent suffire à chacun. Aussitôt, le scarabée reprit son refrain, accusant Néfendu de paresse. Puis entonna la chanson des abeilles. Oh, c'était un hymne étrange qui affolait des auditeurs comme s'ils avaient bu de la liqueur de feu. Il parlait d'une ruche d'abeilles où s'était fait admettre une guêpe chapardeuse qui volait tout leur miel. La guêpe paresseuse leur disait qu'on n'avait pas besoin de travailler et leur conseillait de faire alliance avec les ours, ces bons habits, qu'on prenait bien à tort pour des voleurs de miel. Le scarabée employait des expressions ambiguës pour faire comprendre aux auditeurs que la ruche représentait la vallée de la mer, les ours, les mangeurs de viande, et que le gouffre maraudeuse personnifiait Néfendu. Lorsqu'il chanta que les abeilles suivirent les mauvais conseils de la guêpe jusqu'à ce que la ruche fût à 2 doigts de sa perte, le peuple se mit à gronder et grogner. Et quand le scarabée chanta que les bonnes abeilles se soulevèrent enfin et piquèrent à mort la guêpe, le peuple ramassa des pierres et lapida Néfendu jusqu'à ce que son cadavre disparût sous un monceau de rocailles. Et parmi ceux qui les avaient jetés se trouvaient beaucoup de pauvres gens qui trimaient plus que de raison et mangeaient moins qu'à leur faim. Et après la mort de Néfendu, un seul homme osa se lever pour dire ce qu'il pensait. Il se nommait Face Poilu. « Où est la force des forts ? » demanda-t-il. « Nous sommes forts, nous tous, plus forts que dents de chien, face de tigre, trois pattes et groin de porc. Et tous ceux qui ne font que baffrer et nous affaiblir sous leur force nuisible. » L'homme n'est pas fort s'il est esclave. Si le premier homme qui découvrit les vertus et usages du feu avait employé la force que le feu lui donnait, nous aurions été ses esclaves, tout comme nous le sommes aujourd'hui de Petite Panse, qui découvrit les vertus et usages du piège à poisson, ainsi que des autres qui surent exploiter leurs vertus et usages de la terre, des chèvres et de la liqueur de feu. Jadis, nous habitions les arbres, mes frères, et nul ne vivait en sécurité. Mais nous ne combattons plus les uns contre les autres. Nous avons uni nos forces. Eh bien, cessons aussi de nous battre avec les mangeurs de viande. Augmentons nos forces des leurs. Alors nous serons vraiment forts. Nous marcherons ensemble, mangeurs de poissons et mangeurs de viande, pour tuer tigres et lions, loups et chiens sauvages. Nous ferons paître nos chèvres sur tous les flancs de montagne. Nous sèmerons notre blé et planterons nos tubercules dans toutes les vallées. Ce jour-là, nous serons si forts que tous les animaux sauvages fuiront devant nous et disparaîtront. Et rien ne nous arrêtera, car la force de chaque individu sera la force de tous les hommes de ce monde. » Ainsi parlait Face Poilu, et ils le tuèrent sous prétexte que c'était un rétrograde qui voulait nous ramener à la vie arbriquée et agricole. Et chaque fois qu'un homme se levait pour aller de l'avant, les sédenteurs le traitaient d'arriéré et demandaient sa mort. Et les gens pauvres, dans leur sottise, aidaient à se lapider. Oui, nous étions tous des sots, excepté les gros et les gras qui ne travaillaient point. Les sots, on les appelait sages, et les sages, on les massacrait. Les travailleurs ne mangeaient pas leur comptant, et les fainéants engraissaient. La tribu continua de perdre ses forces. Les enfants étaient faibles et malingres. Et comme la nourriture nous manquait, d'étranges maladies s'abattaient sur nous, et nous mourions comme des mouches. Alors les mangeurs de viande nous tombèrent sur le dos. Nous avions trop souvent suivi Face de Tigre sur l'autre versant de la montagne pour les massacrer. Maintenant, ils venaient nous le faire payer dans le sang. Ils nous exterminèrent tous, excepté quelques femmes qu'ils emmenèrent avec eux. Le scarabée et moi échappâmes au bord carnage. Me cachant dans les endroits les plus sauvages, je devins chasseur de viande et ne connus plus la famine. Je volai une femme chez les mangeurs de viande et allait vivre dans les cavernes de haute montagne où l'on ne pouvait me trouver. Et nous eûmes trois fils qui volèrent chacun une femme chez les mangeurs de viande. Et vous savez le reste, car n'êtes-vous pas mes petits-fils? Mais le scarabée, que devint-il? Demanda Couronin. Oh, il alla vivre avec les mangeurs de viande et devint chanteur du roi. C'est un vieillard maintenant, mais il ravage les vieilles chansons. Dès qu'un homme se lève pour aller de l'avant, il l'accuse de vouloir retourner vivre dans les arbres. Barbanlon fouilla la carcasse d'ours et susota une poignée de graisse entre ses gencives édentées. Un jour, dit-il en s'essuyant les mains sur ses flancs, tous les sots seront morts et tous les vivants suivront la route du progrès. La force des forts leur appartiendra et ils ignoreront leurs énergies de telle façon qu'aucun homme en ce monde ne se batte plus avec un autre. On ne verra plus de gardes ni de veilleurs sur les murailles. Tous les fauves seront tués et, comme le prédisait Face Perdue, nous ferons paître nos chèvres sur les flancs des montagnes et cultiverons notre blé et nos tubercules dans toutes les vallées sur la terre. Tous les hommes seront frères, aucun ne passera son existence à lézarder au soleil et à se faire nourrir par ses semblables. Et tous ces événements arriveront quand tous les sots seront morts et qu'il n'y sera plus de chanteurs qui acceptent de collaborer en chantant la chanson des abeilles. Les abeilles ne sont pas des êtres humains.